Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission des Grands Entretiens. Il y a plusieurs semaines, Storia Voce explorait les liens de l'histoire et du droit à travers la découverte des grands procès du XXe siècle. Nous sommes entrés, pour l'occasion, littéralement dans les prétoires, afin de découvrir les minutes d'une sélection des procès qui ont marqué l'histoire contemporaine de la France, l'histoire du XXe siècle, procès politiques mais aussi faits divers. Je souhaiterais au cours de cette émission approfondir ce lien si particulier entre les deux domaines, entre d'une part l'histoire et d'autre part le droit, ceci à partir d'un cas tout aussi particulier, celui de la Vendée des années 1793-1794. Nous sommes donc sous la Révolution française, pendant la Terreur, pendant ce que l'historien Jean-Clément Martin a appelé chez Gallimard la part maudite de la Révolution. Véritable sujet d'histoire, après avoir été trop longtemps laissé à la mémoire, les guerres de Vendée sont depuis, on va dire, une trentaine d'années largement étudiées. Mais qu'en est-il exactement du dossier du volet juridique? En somme, comment peut-on qualifier les événements qui ont eu lieu à cette époque dans l'ouest de la France? S'agissait-il d'une guerre civile dans le sens historique des plus classiques? Peut-on parler de crimes de guerre ou bien même de crimes contre l'humanité, voire de génocide, comme l'affirme Reynald Secher? Ces questions font évidemment débat et c'est pour cette raison que je souhaite aujourd'hui en présenter le volet juridique. En somme, si demain de tels faits avaient lieu, comment seraient-ils qualifiés au regard du droit pénal international? C'est la question que je vais poser à Jacques Villemain. Jacques Villemain, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes juriste, mais vous êtes aussi diplomate. Vous travaillez pour le Quai d'Orsay aujourd'hui. Et vous avez fréquenté en fait ce monde pénal international en travaillant auprès, en représentant la France, en travaillant auprès du tribunal pénal international dans différents cas, hein, l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Et en fait, quand j'ai reçu cet ouvrage en service de presse, je me suis dit, mais comment un diplomate peut-il se pencher sur une question qui fait au fond partie de notre histoire et qui est bien éloignée?
On peut être diplomate et aimer l'histoire, ça fait partie des sciences politiques auxquelles on est formé avant d'entrer dans la carrière. En l'occurrence, au moment où je m'apprêtais à quitter mon poste à La Haye, est sorti un numéro de la revue universitaire, je crois, de référence qui s'appelle L'Histoire. Et c'était un numéro spécifique sur les crimes de la guerre de Vendée, point d'interrogation. Et en lisant l'article, j'avais été extrêmement surpris par, d'abord par le fait qu'il y avait une espèce d'unanimité des historiens contre la notion de génocide. C'est rare que les historiens soient tous d'accord, à part un petit encadré sur un historien du nom de Reynald Secher qui soutenait la thèse inverse, mais qui visiblement n'était pas, très estimé par les auteurs des articles qui se trouvaient dans la revue. Et puis la deuxième chose qui m'a surpris, c'est que l'argumentation que je voyais développée contre la thèse du génocide était, compte tenu de ce que j'avais vu dans les différents cas que j'avais eu à suivre, donc effectivement les cas du tribunal pour la Yougoslavie, du tribunal pour le Rwanda et de la Cour pénale internationale, l'argumentation me paraissait, totalement à côté de la plaque, c'est-à-dire moins fausse en elle-même que totalement, on dirait en termes de droit, inopérante. C'est-à-dire que les arguments développés auraient été, à mon avis, sans valeur devant un tribunal. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans valeur dans une autre perspective, mais en tout cas, dans la perspective juridique, ce sont des arguments inopérants. En anglais, on dit immaterial. Ce sont des arguments qui ne peuvent tout simplement pas être retenus. Alors, ça a piqué ma curiosité. Je rentre en France et à ce moment-là, je découvre, je vais voir les ouvrages de Reynald Secher, ou du moins l'ouvrage qui était cité dans la revue, qui est un ouvrage, une réédition d'un ouvrage de 1986, et je vois qu'il en a fait paraître un deuxième, en octobre 2011, du génocide au mémoricide. Alors j'ai lu ces deux ouvrages-là, puis j'ai lu les ouvrages notamment de Jean-Clément Martin, qui avait la part belle dans ce numéro de l'Histoire, Et là, je me suis dit qu'il y avait un sujet. Alors, je l'ai creusé pour mon édification intellectuelle personnelle. Évidemment, je précise que tout ce que je soutiens dans mon livre n'engage que moi, bien sûr. Ce sont mes analyses personnelles. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé de l'étudier parce que, après ce que j'avais vu dans les dossiers des tribunaux pénaux internationaux, ça me paraissait énorme que les historiens puissent à la fois décrire des massacres d'une telle ampleur et surtout selon un modus operandi quand même assez clair, et en même temps ne pas mettre le mot sur la chose. Et je voulais savoir comment on pouvait arriver à ce paradoxe, et donc c'était le point de départ de ma recherche.
Alors, vraiment, pour nos auditeurs, là, nous sortons un peu, que nos auditeurs nous pardonnent, mais nous sortons de l'histoire, même si vous utilisez bien évidemment l'histoire et les sources qui ont été, notamment, on pense au texte de Gracchus Babeuf sur la Vendée, on sort de l'histoire pour entrer dans le droit, parce que vous êtes un spécialiste du droit, vous êtes un spécialiste des massacres de masse qui ont eu lieu au XXe siècle. Vous avez étudié à la fois ce qu'est un crime de guerre, ce qu'est un crime contre l'humanité et ce qu'est un génocide.
Oui, en fait, ce sont les trois crimes pour lesquels les tribunaux pénaux internationaux sont compétents. Pour les crimes de guerre, ils ne sont compétents d'ailleurs que pour les crimes de guerre les plus graves. Mais ils sont compétents pour les crimes contre l'humanité et le crime de génocide, de manière subsidiaire par rapport aux juridictions nationales, c'est-à-dire que si les juridictions nationales ne jugent pas, à ce moment-là, la Cour pénale internationale peut, sous certaines conditions, être compétente. Donc il s'agit vraiment d'une jurisprudence, alors surtout axée sur le crime contre l'humanité et le crime de génocide, encore que le crime de guerre soit également tout à fait dans la compétence de ces tribunaux, à ceci près que le crime de guerre, c'est quelque chose qui est repéré depuis très 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 longtemps, alors que le crime contre l'humanité, c'est une notion qui est apparue en droit pénal positif seulement au moment de la Seconde Guerre mondiale, le premier tribunal qui en a connu étant le tribunal de Nuremberg et le tribunal de Tokyo pour le Japon, pour les crimes d'Extrême-Orient. Quant au crime de génocide, d'abord il est apparu pénalement après la Seconde Guerre mondiale, puisque sa définition remonte à 1948. Au tribunal de Nuremberg, le génocide n'est pas encore un crime identifié comme tel, c'est une modalité du crime contre l'humanité. Mais on n'avait jamais jugé de crime de génocide en tant que tel, il a fallu attendre l'affaire de l'ex-Yougoslavie et l'affaire du Rwanda pour qu'il y ait des procès spécifiquement sur ce type de crime. Et ça a donc été l'occasion pour la justice de s'interroger sur ce que c'est qu'un crime de génocide. Quelle est l'empreinte en particulier, l'élément intentionnel, parce que, on en reparlera peut-être tout à l'heure, l'intention pour le crime de génocide est une intention double. Il faut à la fois ce que l'on appelle, je ne voudrais pas être trop technique, mais le dol général, c'est-à-dire le fait d'accomplir l'acte prohibé en connaissance de cause, donc massacrer une population avec bien l'intention de la massacrer. Il ne faut pas que ce soit, un cas fortuit. Par exemple, on parle parfois de génocide pour les Indiens d'Amérique, notamment les Indiens des Caraïbes. Mais c'est vrai qu'il y a des populations entières qui ont disparu, mais elles ont largement disparu à cause de maladies que les Européens avaient apportées, à cause aussi de massacres et de guerres de conquête. Mais on ne peut pas dire que les Européens aient cherché à massacrer les Indiens d'Amérique. De la même manière, certains parlent de génocide à propos de la traite des Noirs, on pourrait dire que c'est presque contradictoire. Quelqu'un qui veut réduire des populations en esclavage ne peut pas avoir pour but de les massacrer, ou sinon il détruit, sa propre marchandise, ou du moins ce qu'il considère comme étant sa marchandise. Donc, il faut vraiment une intention, l'intention de massacrer, mais en plus, il faut l'intention de massacrer les gens pour ce qu'ils sont, de les massacrer, selon le terme juridique, comme tel. Et bon, une intention, c'est très difficile à cerner, parce que généralement, les criminels ne mettent pas leurs intentions sur le papier. Au contraire, le criminel aura plutôt tendance à dissimuler son intention derrière autre chose. Et donc, c'est un sujet extrêmement particulier, et il a fallu que la jurisprudence pénale internationale développe toute une méthode pour mettre en évidence l'intention criminelle, et surtout la mettre en évidence sans preuve documentaire. Puisque généralement, comme je l'ai dit, le criminel cherche plutôt à effacer les traces et à brouiller les pistes. Ce qui fait que le juriste, le juge, se trouve dans une situation extrêmement différente de l'historien. Le principe de l'historien, c'est qu'il ne peut pas sortir de son dossier d'archives. Et il ne doit pouvoir affirmer quelque chose qu'à la condition d'avoir des archives qui établissent ce qu'il dit. À la limite, il peut interpréter un certain silence des archives, mais il ne peut pas inventer. C'est pas que le juge puisse inventer, mais il a une méthode particulière qui lui permet de déduire des intentions à partir d'actes, à partir d'actions, à partir d'omissions aussi. Et cette méthode-là ne recouvre que très partiellement la méthode de l'historien.
Alors justement, où s'arrête le travail de l'historien ? Parce que les historiens, vous ne les épargnez pas en quelque sorte, hein, si vous me permettez, parce que l'historien, quelle est sa méthode ? Il n'a que la méthode comparatiste à son usage. Tandis que vous, quelle est la différenciation entre le rôle de l'historien et le rôle du juriste? Où s'arrête le travail de l'historien? Où commence le travail du juriste?
Bon, je ne suis pas historien, donc je ne vais pas trop vous parler du métier d'historien, mais il me semble que l'historien a pour objectif, d'une part, d'établir les faits, de nous dire que Marignan, c'est 1515 et pas 1514 ou 1516, et d'autre part, d'expliquer les faits. Donc expliquer que Marignan se situe dans le cadre d'une guerre entre la France et l'Empire, que les causes en sont celles-ci et les conséquences celles-là, de nous dire comment les choses se sont passées, de nous expliquer si Bayard a eu le rôle qu'on lui reconnaît aujourd'hui ou pas. Bon, il établit les faits et il les explique. Le rôle du juge ou du juriste est différent. L'explication, tout d'abord, n'est pas une justification ni une condamnation. Même un crime peut s'expliquer. Il y a peut-être qu'un jour, on nous trouvera une explication satisfaisante pour le fait que des jeunes gens nés en France, pas nécessairement dans des familles musulmanes, par exemple, partent pour le djihad ou s'engagent dans le terrorisme. Alors actuellement, on cherche des explications dans la sociologie, dans un certain nombre, dans la psychologie, dans un certain nombre d'autres sciences. Je ne me prononce pas sur la valeur de ces explications, mais je vous rappelle une petite polémique qui a eu lieu en début d'année où le Premier ministre d'alors avait dit « je ne veux pas qu'on explique parce que expliquer, c'est déjà excuser ». Et beaucoup de scientifiques, de sociologues notamment, lui ont dit « non, c'est pas la même chose ». Et de fait, quand bien même on aura expliqué un crime, ça ne l'empêchera pas d'être un crime. Ce que je constate, c'est que...
Et ça, c'est très important du point de vue du droit, parce que il y a l'argument en face qui consiste à dire « mais vous jugez de façon anachronique des événements, or un crime, ça reste un crime qui soit commis en 1793, en 1850 ou bien en 1939 ».
Alors, oui, cette question de l'anachronisme, c'est une des premières auxquelles je me suis heurté quand j'ai commencé à réfléchir sur le sujet. Mais en fait, il y a deux anachronismes, ou deux définitions. Je crois que la définition de l'anachronisme historique, c'est le fait d'attribuer à une période historique une réalité qui ne lui appartient pas. Je me souviens par exemple du film que Sofia Ford Coppola avait fait sortir sur Marie-Antoinette, et il y a une scène où on voit Marie-Antoinette avec des chaussures qui sont quelque sorte des baskets. Bon, là on est effectivement dans l'anachronisme. Les baskets, ça n'appartient pas au monde du XVIIIe siècle, mais c'est une réalité du XXe qui est transposée dans le XVIIIe. Il y a un autre anachronisme qui est, alors ce que l'on a appelé, il y a eu une petite discussion à l'époque, c'était je crois entre François Furet, donc un historien, et Michel Tropper, qui lui est un juriste, sur ce qu'on a appelé l'anachronisme des concepts. Et Michel Tropper explique dans un article, je crois que c'était la Revue des Annales, que l'historien ne peut pas faire l'économie de l'anachronisme des concepts, c'est-à-dire d'utiliser un mot moderne dans la mesure où il rend compte d'une réalité ancienne. l'exemple que Tropper ne donne pas, enfin que je crois que je donne dans le livre, c'est il y a des historiens de l'économie, parce que j'ai eu droit à des cours d'histoire de l'économie au cours de ma formation, qui nous parlaient de l'inflation sous l'Empire romain. Ils expliquaient que la pièce d'or, l'aureus, avait été vu son poids divisé par deux quand on était arrivé quelques temps plus tard au solidus, qui ne faisait que 3,5 grammes alors que l'autre faisait 7 grammes. Bon. Il est bien évident que ni Néron, ni Dioclétien n'ont jamais su ce que c'était que l'inflation monétaire. Je pense pas que la science économique de l'époque avait dégagé ce concept. Il n'empêche que c'est parfaitement légitime de pas d'étudier l'inflation dans l'Empire romain, parce que la dévaluation monétaire est une réalité de l'époque. C'est un mot moderne sur une réalité ancienne. S'agissant du crime de génocide ou du crime contre l'humanité à propos de la Vendée, je pense que on n'est pas dans l'anachronisme, puisque ce qui me paraît important, c'est que il est clair que les massacres de Vendée en 1793-94 ont tout à fait été compris, à l'époque même où ils ont été commis, comme des crimes abominables. Ils sont même tellement abominables que les contemporains ne trouvent pas de mots à mettre dessus. Alors ils inventent des néologismes. Le Quignot, qui est un conventionnel qui va faire un rapport en mai 1794 au comité de salut public, il est représentant en mission, donc il a été sur le terrain, qui est d'ailleurs un individu, comment dirais-je, assez massacreur, parle de dépopulation. Et le mot sera repris par Babeuf deux années plus tard, en 1796, quand il parle d'un système de dépopulation. Et il invente même un autre néologisme, qui est un adjectif, qui parle de populicide. Eh bien, ça nous montre que les contemporains n'avaient pas de doute sur la nature criminelle des faits, mais que d'un autre côté, ils avaient aussi la sensation d'être devant un fait criminel totalement inédit. Quelque chose qui était tellement nouveau qu'on n'avait pas de mots pour en parler. On a d'ailleurs longtemps manqué de mots pour en parler, puisque le mot génocide n'a été inventé, je crois qu'en 1942, par un juriste d'origine juive polonaise, mais qui était passé aux États-Unis, Raphaël Lemkin, qui lui a inventé le mot de génocide. Mais la simple étymologie, le sens général de génocide, c'est la même chose que populicide ou que dépopulation. Il s'agit bien de massacrer toute une population. À cet égard, je dirais par exemple qu'il y a beaucoup moins d'anachronismes à parler de génocide à propos de la guerre de Vendée qu'à parler par exemple de crimes contre l'humanité à propos de la traite des Noirs. Vous savez que c'est dans notre droit, puisque la loi Taubira de 2001 qualifie la traite des Noirs de crime contre l'humanité. La différence, c'est qu'au XVIIIe siècle, tout le monde n'a pas conscience que la traite des Noirs est un crime. C'est à l'époque une activité commerciale parfaitement reconnue, légale, il y a même des codes, le fameux code noir entre autres. Il y a évidemment quelques intellectuels comme Voltaire qui ont des paroles assez dures sur l'esclavage, c'est un intellectuel avancé, mais vous avez d'autres intellectuels avancés, je pense à Beaumarchais en particulier, dont j'entends dire qu'il a entre autres investi dans ce genre de commerce. Donc tous les esprits avancés même ne sont pas contre l'esclavage, et en tout cas la société ne répute pas l'esclavage comme un crime. De ce point de vue-là, je dirais que c'est un peu la limite de l'anachronisme des concepts. Il faut quand même qu'il y ait une pertinence du concept par rapport à la réalité à laquelle on l'applique. Je pense qu'on ne pourrait m'opposer l'anachronisme dans l'affaire de Vendée que si, à l'époque, on n'avait pas eu conscience qu'il s'agissait d'un crime. Or, ça n'est pas du tout le cas. Non seulement on en a conscience, on n'a pas de mots pour le dire, on invente des néologismes et on va traduire en justice, avec ce que vaut la justice révolutionnaire, c'est-à-dire pas grand-chose, Écarier et Thureau pour des faits qui sont des faits liés au massacre de Vendée. Et ce sont les révolutionnaires qui le font, ce sont les thermidoriens. Donc, on ne peut pas dire que ce soit des contre-révolutionnaires.
Alors, justement, la grande différence, au fond, entre l'historien et le juriste, c'est que l'historien, il peut travailler sur des concepts qui sont, vous le dites, un peu flous et élastiques, et parfois qui sont interprétés de façon... qui sont soit sous-évalués, soit sur-évalués. En revanche, le juriste, lui, il n'a à sa disposition que la loi, et la jurisprudence. Et donc, c'est sur ces fondements, sur la jurisprudence et sur votre expérience que vous avez, en quelque sorte, remis des conclusions sur la Vendée.
Oui, alors j'aurais peut-être dû commencer par là, effectivement. Un historien, pour raisonner, compare les faits. Il essaye de voir, bon, l'histoire est une science humaine, en quoi les faits qu'il étudie sont comparables ou pas comparables à d'autres faits qui se sont produits à d'autres époques, et il essaie d'en tirer des conclusions. Le juriste, lui, effectivement, est obligé de se référer à une norme qui est extérieure aux faits qu'il étudie et extérieure à tous les autres faits qui pourraient être semblables. Donc c'est véritablement un critère qui normalement est un critère a priori, mais qui est en tout cas un critère externe. La particularité, c'est que la loi est une norme générale, alors que les faits sont tous particuliers. Et tout l'art du juriste consiste à expliquer en quoi tel fait particulier s'encadre ou ne s'encadre pas dans la norme générale. Parce que la norme générale, par définition, ne peut pas prévoir tous les cas particuliers. Il faudrait pratiquement une loi par acte, sinon. Donc, on est obligé, je ne dirais pas de saucissonner la loi, mais de lui faire dire tout ce qu'elle peut dire, de lui faire décrire toutes les hypothèses qu'elle peut couvrir, y compris celles qui ne sont pas nécessairement dans la lettre du texte. Et c'est la recherche de l'intention du législateur. Elle est extrêmement importante pour la question du génocide, parce que la définition que l'on a prise en 1948, on l'a prise évidemment, et c'était une convention des Nations Unies, hein, donc c'était tout de même vraiment une loi internationale, en plus universelle à l'époque, puisque tous les États de l'ONU, à l'époque il n'y en avait qu'une cinquantaine, y ont souscrit, et c'était une définition qui était évidemment très largement la conséquence de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, quand on a fait ce texte, on avait la Shoah en mémoire. Seulement évidemment, l'histoire ne se reproduit jamais exactement, et les crimes que l'on a eus, notamment au Rwanda et en Yougoslavie, sont très différents de ceux que l'on a eus pendant la Seconde Guerre mondiale, et on s'est retrouvé avec des définitions, notamment du génocide, la définition de 48, qui était partiellement inapplicable aux affaires de Yougoslavie et du Rwanda. Or, ça paraissait clair à tout le monde que là, enfin, les Anglais disent « je ne sais pas ce que c'est qu'un génocide, mais je sais le reconnaître quand j'en vois un ». Donc il y avait ce sentiment qu'effectivement c'était bien des génocides, mais que néanmoins, si on prenait la lettre de 1948, ça ne correspondait pas. Et donc, les deux tribunaux qu'a institué l'ONU, puisque le tribunal pour la Yougoslavie et l'ex-Yougoslavie et le tribunal pour le Rwanda sont des tribunaux institués par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les juges ont donc dû faire un effort d'interprétation pour faire coïncider ce qu'est l'esprit de la Convention de 48 avec ce qu'a été la réalité des faits de Yougoslavie et de Rwanda. C'est donc toute une construction jurisprudentielle qui est obligée d'aller au fond des choses du concept de génocide, et c'est aussi à partir de là que l'on voit à quel point la définition est applicable à la Vendée, à laquelle, bien entendu, les juges des tribunaux pénaux internationaux n'ont pas pensé une minute.
Alors, dans votre méthode, vous reprenez les deux étapes d'un procès pénal international.
Voilà. Il y a deux étapes. Il faut d'abord démontrer l'existence du crime. Parce que ce n'est pas évident qu'un massacre soit... Un même massacre peut-être, ou bien... Ça, il fallait que ça arrive.
Bon.
Et en plus, c'est rénal.
Bon. Je vais vous reposer la question.
Oui, allons-y. Attendez, moi, je vais essayer d'éteindre ça. Le problème, c'est que je ne sais absolument pas me servir de ces machines.
Donc, Georges, je reprends la question. Dans la méthode, Jacques Villemain, vous avez donc repris les étapes d'un procès pénal international, les deux étapes d'un procès pénal international.
Oui, très exactement, les deux étapes devant la Cour pénale internationale, puisque les tribunaux pour la Yougoslavie et le Rwanda étaient ce qu'on appelait des tribunaux ad hoc, c'est-à-dire des tribunaux qui n'avaient compétence que pour ces deux affaires-là, qui sont arrivées en fait successivement en 93 et 94. On a créé ces tribunaux dans l'immédiat, et ensuite on s'est rendu compte qu'il fallait mieux avoir une juridiction permanente, parce qu'évidemment le problème d'un tribunal ad hoc, c'est que ça a toujours la réputation d'être au fond, une espèce de justice de circonstance. Donc, on a créé la Cour pénale internationale par un traité de 1998, entré en vigueur en 2002. Et devant la Cour pénale internationale, il y a deux phases. Dans la première, on doit démontrer l'existence d'un type de crime. Parce qu'un même fait peut correspondre soit à un crime de guerre, soit à un crime contre l'humanité, soit à un crime de génocide. J'y reviendrai dans une minute. Donc, dans un premier temps, le procureur doit démontrer l'existence au-delà du doute raisonnable, et c'est aussi une différence avec le travail de l'historien, là aussi il faudra peut-être y revenir, il doit démontrer l'existence soit d'un crime de guerre, soit d'un crime contre l'humanité, soit d'un crime de génocide, au-delà de tout doute raisonnable. C'est-à-dire que toute thèse contraire doit se heurter à une objection raisonnable. Et s'il y a une objection, bien sûr, elle profite toujours à l'accusé, le doute profite à l'accusé. Si, à la fin de la première phase du procès, la défense de l'accusé pense qu'elle peut émettre une objection raisonnable, dire il y a un doute raisonnable quant au fait que ceci soit un génocide ou un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, le procès s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réquisitoire contre l'accusé. Et c'est logique. S'il n'y a pas de crime, il ne peut pas y avoir de coupable. Ou alors, il faut changer la qualification du crime, dire « Ah ben non, c'est pas un crime de génocide, c'est plutôt un crime contre l'humanité », et à ce moment-là, recommencer une procédure. Si le procureur réussit à convaincre les juges que le crime a bien eu lieu, il doit alors, et toujours au-delà du doute raisonnable, démontrer que l'accusé en est responsable. Donc, dans mon livre, je reprends ces deux phases, je pose d'abord la question de savoir de quel type de crime on parle, et dans un deuxième temps, où sont les coupables? Et là, pour le coup, c'est quelque chose que ne font pas les historiens que j'ai lus sur le sujet, que ce soit un historien comme Reynald Secher ou ceux qui nient le génocide comme Jean-Clément Martin. Ils se bornent à affirmer l'existence du crime ou à la nier. Ils ne vont pas très loin dans la recherche des coupables. Bon, ceux qui nient le crime, de toute façon, comme Jean-Clément Martin, forcément ne vont pas chercher de coupables. Reynald Secher, ça se lit entre les lignes, que visiblement pour lui, Carnot a une responsabilité particulièrement éminente. Mais enfin, il ne s'occupe pas vraiment de faire le lien entre le crime et un coupable. Pour moi, c'était très important de le faire parce que je comprends qu'une des raisons de la polémique autour du crime, c'est que certains disent « Ah, mais on accuse la France, ou la République, ou la Révolution d'avoir commis un génocide, c'est affreux. »
Mais ce n'est pas le cas, parce que c'est ce que vous expliquez dans votre livre, on ne peut pas accuser la France, on ne peut pas accuser la République, on accuse des hommes.
Absolument, mais même au tribunal de Nuremberg, on n'a pas mis le Troisième Reich dans le box d'accusés. Le tribunal de Nuremberg a jugé une grosse douzaine de responsables nazis qui avaient tous un nom, qui s'appelait Göring, qui s'appelait Speer, qui s'appelait Keitel. Mais c'était tous des personnes, des êtres de chair et de sang. Les crimes sont commis par des criminels. Peut-être que certains régimes sont criminogènes. Je ne dirais pas que le Troisième Reich était plutôt de ce genre-là, ou que des milieux sont criminogènes. Mais ça n'a pas plus de sens de dire que la République a commis un génocide que de dire que la banlieue a brûlé des voitures. C'est pas la banlieue qui brûle des voitures, ce sont des personnes. Voyons. Voilà. Et c'est pas la République qui a tué les Vendéens, ce sont des armées commandées par des généraux aux ordres de responsables politiques. Donc il faut, on ne peut pas parler d'un crime si on ne pose pas la question du criminel derrière. Donc je me suis aussi attaché, et selon les méthodes du droit pénal international, à indiquer de possibles responsables.
Alors, on sent que, et on le voit bien depuis le début de cette émission, c'est que la question du génocide constitue la grande part, la part la plus importante de votre ouvrage. Mais il y a toujours une progression, c'est-à-dire qu'on parle toujours de crimes de guerre d'abord, puis ensuite de crimes contre l'humanité, et enfin de génocide.
Oui, là, il faut faire un tout petit excursus sur la définition des trois crimes. Je vous ai dit tout à l'heure, le même fait peut avoir trois qualifications juridiques différentes. Et c'est aussi une différence entre le travail du juriste et de l'historien. Je dirais que l'historien est plus dans ce que le juriste appellerait l'exactitude matérielle des faits. Puisque dans un procès pénal, il y a bien sûr les questions de faits et les questions de droit. Les questions de fait sont jugées souverainement d'abord en première instance, ensuite Alors, il y a pas, c'est pas vraiment des. Si maintenant c'est un appel, parce que les cours d'assises, maintenant il y a un deuxième degré de juridiction, et puis ensuite on peut passer à la cassation, mais la cassation ne s'occupe pas de l'exactitude matérielle des faits, sauf un cas particulier qu'on appelle la dénaturation, mais rentrons pas dans les détails. Il y a d'abord les questions de faits et ensuite les questions de droit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi le fait, comment doit-on qualifier juridiquement ce fait ? Alors, je vous prends un exemple, le massacre de tout un village. On a eu ça pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'affaire d'Oradour-sur-Glane. Eh bien, Oradour-sur-Glane, c'est un simple crime de guerre. Alors que si je prends le cas des Lucques-sur-Boulogne en Vendée, donc le massacre de tout un village en 1794, on parle parfois d'ailleurs de l'Oradour vendéen. Et pourtant, les Lucques-sur-Boulogne, à mon sens, c'est clairement un crime de génocide. Or, matériellement, c'est quand même le même fait, c'est-à-dire une troupe se jette sur un village et massacre tout le monde, hommes, femmes, enfants, tous ceux qu'ils rencontrent. Comment arrive-t-on à la conclusion que c'est pas le même crime, bien que ce soit le même fait ? Eh bien, parce que une infraction pénale, il y a toujours un élément matériel, mais il y a aussi un élément intentionnel. Je pense que vos auditeurs sont familiers avec ces notions, par exemple, de Dupont tue Durand, ou Durand meurt sous les coups de Dupont. Mais ça peut aussi bien être coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça peut être homicide involontaire. Ça peut être assassinat dans le cas où il y a préméditation. La question est de savoir, au fond, dans quel esprit agissait Dupont quand il a tué Durand. Est-ce que c'était au cours d'une dispute qui a mal tourné, ou bien est-ce qu'au contraire il l'a attendu au coin de la rue avec l'intention de le tuer? Ça n'est pas le même acte. Dans un cas, c'est un assassinat, s'il y a préméditation. Ça peut être homicide involontaire, si par exemple il l'a vraiment pas fait exprès, il n'avait pas du tout l'intention de le tuer. Et puis entre les deux, on a les coups et blessures qui eux sont volontaires, mais ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et là on a une conséquence involontaire. Dans le cas de Radour-sur-Glane, on a une troupe qui a agi, si j'ose dire, sans ordre, en tout cas sans ordre supérieur au commandant de la troupe. Donc c'est un détachement d'un régiment SS. Il y a eu qui remonte vers les plages du débarquement pour donc lutter contre le débarquement. Il y a eu des actes de résistance et au fond il décide de se venger. Il massacre le premier village qu'il rencontre. Bon, la chose a été ils n'ont pas agi sur ordre supérieur. Ça n'est pas un massacre qui se situe dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. C'est l'attaque généralisée ou systématique contre la population civile, c'est la définition du crime contre l'humanité. Et on ne peut pas dire non plus qu'ils aient tué les habitants d'Oradour-sur-Glane comme tels, en se disant « les habitants d'Oradour-sur-Glane sont un groupe particulièrement détestable que je vais massacrer en tant que tel ». C'est tombé sur Oradour, ça aurait pu tomber sur le village d'à côté. Donc, c'est un simple crime de guerre. Alors que dans le cas des Lucques-sur-Boulogne, on se situe dans le cadre de l'opération des colonnes infernales, c'est-à-dire que les troupes républicaines ratissent sur 12 colonnes la Vendée militaire, avec instruction de tuer absolument tous ceux qu'ils rencontrent, sans même se poser la question de savoir s'ils sont rebelles ou s'ils sont républicains.
Parce que c'est un reproche, ça, ou en tous les cas un argument contraire qui consiste à dire « mais il y avait des bons Vendéens républicains et ils ont été sauvés ». Or, visiblement, ce n'est pas le cas.
Alors, de fait, je pense que, d'abord, c'est rare qu'on se réveille le matin en disant « je vais commettre un génocide ». En fait, même dans le cas du génocide nazi, il y a eu toute une progression. D'abord, il n'y a pas eu de massacre avant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui encore, les historiens de la période se divisent, si j'ai bien compris, entre les fonctionnalistes et les intentionnalistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que depuis le début, depuis 1933, Hitler voulait massacrer les Juifs et que l'avènement de la Seconde Guerre mondiale a juste été l'occasion qui lui a permis de réaliser une intention antérieure. Et puis, il y a ceux qui considèrent qu'au fond, c'est l'occasion qui a fait le larron, c'est-à-dire que quand il a envahi la partie orientale de la Pologne, il s'est retrouvé, donc en juin 41, il s'est retrouvé avec de très importantes populations juives à sa merci, qu'à ce moment-là, ils ont commencé à les massacrer de manière, j'allais dire, presque improvisée, les Einsatzgruppen, et puis c'était pas du tout efficace. Mais enfin, ça a quand même fait 1 million de morts, paraît-il, ce qu'on a appelé la Shoah par balle. Et que c'est en fait, c'est seulement au printemps 42, enfin, non, à l'hiver 42, puisque je crois que la conférence de Wannsee est de janvier 42, que l'on décide de mettre en place un système concentrationnaire et industriel d'extermination qui seront les camps de la mort. Donc, vous voyez, même là, il y a eu, en fait, quelque sorte, une montée en charge du génocide. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Eh bien, en Vendée, je crois que c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Au début, on a une révolte.
Ce qui vous distingue d'ailleurs de Reynald Secher dans la question de la datation sur le génocide.
Voilà, je crois que... mais Reynald Secher est historien. D'abord, je tiens quand même à saluer l'immense travail qu'il a fait, parce qu'il a quand même été le premier à mettre le mot sur la chose. Et ça, c'est un mérite tout à fait unique, et ça lui a attiré, je crois, suffisamment d'ennuis. Mais effectivement... Il y a une partie de l'argumentation de Jean-Clément Martin que j'achète volontiers, qui est quand il explique que la Vendée, ça commence comme une jacquerie de l'Ancien Régime, et que c'est réprimé comme une jacquerie de l'Ancien Régime. Ça, je crois que ça se tient assez. En mars 1793, il y a un soulèvement, on envoie une petite troupe qui se fait battre, une deuxième qui se fait battre. On met un certain temps avant de se rendre compte que c'est une affaire beaucoup plus sérieuse qu'une jacquerie. Et à ce moment-là, on arrive en août 93 avec une première loi qui, elle, d'abord, c'est rare que dans la répression des jacqueries, on ait eu des édits royaux ou l'équivalent de lois prises par le pouvoir central pour édicter une norme générale disant que il faut éradiquer par des moyens quand même extrêmement vastes l'incendie du pays, le retrait des subsistances. Ça va quand même très très loin. Je crois qu'en août 93, on franchit un palier, parce que avant, au fond, on essaye de réprimer des rebelles. Mais en août 93, on décide par exemple qu'il faut brûler les subsistances ou les enlever, autrement dit condamner la population à la famine. Ce qui revient à dire que c'est pas seulement ceux qui ont pris les armes qu'on vise, mais toute une population civile. Donc là, je pense que on rentre vraiment dans une logique d'attaque généralisée et systématique contre une population civile. Et ça continue. Alors, en août 93 encore, on a une clause, j'allais dire un peu rhétorique, dans laquelle on dit que les femmes et les enfants seront transportés sur les arrières. Bon, je veux bien le prendre à titre de doute raisonnable, mais en fait, il faut être un peu réaliste. Il y avait à peu près 800 000 personnes en Vendée, donc les femmes et les enfants, les femmes, ça représente déjà 400 000. Vous rajoutez les enfants, devait bien y en avoir au moins 50 000. Donc ça veut dire plus de 450 000 personnes à transporter vers l'arrière. Même aujourd'hui, ce serait une opération logistique. Ce serait, je crois, je vais calculer 10 ou 12 fois la ville de Chartres. C'est-à-dire, surtout avec les moyens de l'époque et en pleine guerre civile, c'était totalement impossible. Donc c'est plus rhétorique à mon avis qu'autre chose. Et je remarque.
Mais dans l'intention justement.
Alors là, c'est pour ça que je pense qu'il y a encore un doute raisonnable, parce que. Assez clairement, les conventionnels n'ont pas vraiment idée de l'ampleur de la population de la Vendée. On le voit dans la correspondance des représentants en mission. Ils ont l'air de penser que la population de la Vendée, c'est au mec de la Vendée militaire, qui s'étend sur 4 départements en fait, la population serait grosso modo au maximum de 200 000 personnes. En fait, elle est 4 fois plus nombreuse. Ce qui fait qu'à un moment, c'est la correspondance de Hans Garot et Franck Castel avec le comité de salut public, ils disent « ben, on a dû en tuer à peu près 140 000, il doit en rester à peu près 20 000, donc en faisant passer 12 colonnes à un peu plus de 10 000 hommes, on fait ratisser la région, il suffit qu'on en tue à peu près 1000 par jour, enfin, ça ils le disent pas mais c'est implicite, il suffit à peu près qu'on en tue 1000 par jour et il ne restera plus personne. Et donc Thurot au début dit bon, je ferai le travail en 7 jours, et puis ensuite il dit en 15 jours. Puis au bout d'un mois, c'est pas terminé. Puis au bout de 2 mois, c'est toujours pas terminé. Non seulement c'est pas terminé, mais
ça se terminera jamais.
Mais comme les, oui, alors surtout comme Thurot le dit dans ses mémoires, ma résolution était de ne leur laisser que le choix de la mort. Autrement dit, ou bien vous vous laissez égorger, ou bien vous mourrez les armes à la main. Évidemment, les Vendéens ont préféré mourir les armes à la main, ce qui fait que la rébellion vendéenne, qui était en fait anéantie à partir de la défaite de Savenay en décembre 93, va reprendre parce que les gens sont le dos au mur et que de toute façon, ils savent qu'on va les tuer, donc ils se battent avec l'énergie du désespoir. Au bout de 4 mois, le comité de salut public se rend compte qu'on n'y arrivera pas et donc il met fin au commandement de Thurot. Donc c'est mai 94. Ensuite, comme la Vendée n'est plus vraiment dangereuse, mais en fait elle n'est plus vraiment dangereuse depuis Savenay, il se passe autre chose. Et puis bon, juillet 94, c'est Thermidor, et à ce moment-là on change complètement de cadre politique. Mais donc il y a eu au début la répression d'une jacquerie et là je crois que c'est simplement le crime de guerre. La loi du 19 mars 93 met les Vendéens hors la loi. Hors la loi, c'est une figure juridique qui aujourd'hui ne nous dit rien, sauf pour les plus jeunes d'entre nous qui ont été enfants à l'époque des westerns de John Wayne, n'est-ce pas? L'outlaw, c'est au fond c'est celui qui n'a aucune protection de la loi. Et donc, on se rappelle tous les affiches, hein, « Wanted, dead or alive », n'importe qui peut tuer le hors-la-loi. On ne lui fait même pas de procès. Il est mis hors-la-loi, il ne peut plus se réclamer d'aucune protection légale. Le hors-la-loi, c'est une figure du droit romain. Et donc, la personne qui est mise hors-la-loi, elle est tellement mise hors-la-loi que, par exemple, même ses liens de famille sont rompus. Il n'est plus le père, le frère, le mari de personne. Tous ces liens, non seulement ça implique la mort civile, mais ça veut dire aussi que le premier qui peut le tuer, le tuera, et qu'on non seulement ne lui reprochera pas, mais il aura même fait un acte méritoire. Parfois, le hors-la-loi est qualifié de hostes humani generis, d'ennemi du genre humain. Autrement dit, c'est vraiment la bête nuisible qu'il faut supprimer. Nous, on a complètement perdu de vue ce que c'était que le hors-la-loi, mais évidemment, les juristes de l'époque, à commencer par Cambacérès, qui a été formé à la faculté de Montpellier, qui était une faculté renommée pour le droit romain à l'époque, tout le monde comprend ce que ça veut dire que hors la loi à l'époque. Alors évidemment, quand on dit hors la loi, ça veut dire aussi hors la loi de la guerre. Parce que la guerre a des lois. Et depuis le Moyen-Âge, on admet qu'il y a deux principes. D'une part, on distingue entre les combattants et les non-combattants. Et on ne doit pas exercer la violence contre les non-combattants. Donc le chevalier, mais le soldat derrière lui, ne doit pas attaquer le civil non-armé, la femme, l'enfant, le vieillard. Il ne doit pas. Il ne doit pas non plus tuer son ennemi désarmé. Il peut le faire prisonnier, demander rançon. Hein. Il ne peut pas le tuer parce que c'était un combattant. Mais à partir du moment où il est blessé, désarmé, où il se rend, il cesse d'être combattant. Donc on ne peut plus exercer la violence guerrière à son égard. Là, les armées bleues, elles, ne s'embarrasseront pas de ça. Ils massacrent systématiquement les malades dans les hôpitaux ou les blessés dans les hôpitaux. Ils utilisent même, ce qui est un autre crime de guerre, ce qu'on appelle la perfidie, c'est-à-dire commettre un acte qui, selon le droit de la guerre, appelle une certaine réponse de l'adversaire. Par exemple, une perfidie, c'est vous faites semblant d'être blessé. À partir de là, votre adversaire n'a pas le droit de pointer ses armes sur vous. Il est même, en principe, tenu de vous porter secours, quitte à vous faire prisonnier. Et puis, au moment où il s'approche, pan, vous redressez et vous le tuez. C'est une perfidie. Alors, le mot est un peu ancien, mais ça veut dire que c'est un manquement à la foi ou à l'honneur, tout simplement. Or, une des formes de perfidie qu'on voit très souvent dans les guerres de Vendée, c'est les commandants bleus font semblant d'accepter la reddition des Vendéens, et dès qu'ils s'avancent, après avoir mis bas les armes, ils font feu. Donc ça, c'est quelque chose qui aurait été considéré comme déshonorant sous l'Ancien Régime. En fait, c'est quelque chose qui est considéré comme, si je reprends la terminologie des tribunaux pénaux internationaux, violation des lois et coutumes de la guerre. C'est un crime de guerre. Après août 93, attaque généralisée et systématique, on est dans le crime contre l'humanité, mais... Et là, je me sépare de Reynald Secher. Je pense qu'il y a un doute raisonnable dans la mesure où les troupes républicaines ont quand même affaire à une force armée organisée qui est l'armée catholique et royale. Que la guerre fasse des victimes civiles collatérales, hélas, ça se voit dans toutes les guerres. Il n'est pas certain que... Alors, il est certain qu'ils ont visé les civils en tant que tels, et là, on est dans le crime contre l'humanité. il n'est pas certain qu'ils, à mes yeux, au-delà de tout doute raisonnable, qu'ils aient voulu les tuer en tant que Vendéens. Par contre, au moment de l'épisode des colonnes infernales, un, il n'y a plus de force armée vendéenne organisée, l'armée catholique et royale n'existe plus. Deux, et vous l'évoquiez tout à l'heure, les troupes républicaines massacrent y compris les Vendéens républicains. Ce qui va se passer, c'est que un certain nombre de municipalités vendéennes républicaines vont être massacrées par les colonnes de Thurot. Certains vont s'en échapper, vont renvoyer des plaintes, évidemment, au comité de salut public, et le comité de salut public ne fait rien. Il n'empêche absolument pas les colonnes infernales de continuer à massacrer tout le monde. Non seulement ils ne font rien, mais les représentants en mission, alors les représentants en mission, il faut en dire un mot, ce sont des députés membres de la Convention, sélectionnés par le comité de salut public et envoyés sur le terrain. En fond, c'est un peu les commissaires politiques pour vérifier que les militaires font bien ce que la Convention a ordonné. Donc on a une chaîne de commandement qui est très précise, le comité de salut public, les représentants en mission, les militaires sur le terrain. Et tous ces gens-là n'ont absolument aucun doute sur le fait qu'il faut massacrer tout le monde. Et même quand il y a une municipalité républicaine, ça c'est vraiment très intéressant, il y a une municipalité républicaine qui se saisit d'un capitaine, je crois qu'il est de la colonne Huché, le capitaine Guamartinière, qui a massacré des femmes, des enfants, éventré des nourrissons, enfin commis toutes les horreurs. Elle le juge, et comme on allait assez vite à l'époque, elle le guillotine pratiquement sur le champ. Enfin, ça se passe en 24 heures. Les représentants en mission arrivent, et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils dissolvent la municipalité républicaine, ils la dénoncent comme contre-révolutionnaire au comité de salut public, et ils expliquent au comité de salut public que de toute façon, tous les Vendéens sont mauvais, que Guamartinière n'a fait que ce qu'il devait faire. Donc, quand on en est à tuer des gens, à tuer des Vendéens, même républicains, et les représentants en mission le disent, hein, cette race est maudite, jamais ils n'adhéreront à la République. La seule manière de s'en débarrasser, c'est de les tuer jusqu'au dernier.
Alors Jacques Villemain, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être en quelques mots, ce qui est d'étonnant, c'est de savoir que la loi française garde toujours ses textes, non pas dans son histoire, mais dans son droit.
Ben, ces lois n'ont jamais été... Alors bon, évidemment, ces lois, aujourd'hui, ne produisent plus aucun effet.
Fort heureusement.
Mais elles n'ont jamais été ni abrogées, ni même retirées, ce qui serait quand même assez normal. Je rappelle que, par exemple, le statut des Juifs, qui a été retiré. C'est-à-dire, au moment de la libération, on n'a pas abrogé le statut des Juifs. Ça aurait voulu dire le statut des Juifs était en vigueur jusqu'à aujourd'hui, à partir de demain, il n'est plus en vigueur. Non, on l'a retiré, c'est-à-dire qu'on a dit ça n'a jamais été une loi, ça opère ab initio, depuis le début. On ne l'a pas fait pour ces lois-là. Ce qui s'est passé, c'est que évidemment après la Révolution, il y a l'Empire qui ne peut pas se permettre de désavouer la Révolution dont il est issu. Ensuite, il y aura la Restauration qui ne veut pas rouvrir les vieilles blessures et qui, au fond, pour la concorde nationale, va jeter le manteau de Noé sur toutes ces horreurs. Et puis, bon, ensuite, il y a eu ce que Renald Secher appelle le mémoricide, en tout cas une volonté de ne plus en reparler. Et donc, ces lois sont toujours dans notre ordonnancement juridique. Le nom de Thurot, qui est donc le chef des colonnes infernales,
est sur l'Arc de Triomphe.
Mais moi, j'estime que Robespierre a sa responsabilité. Et là, pour le coup, vraiment, c'est la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux. À partir du moment où vous avez un exécutif collégial qui décide d'une politique, tous les membres du collège en portent la responsabilité pénale.
Et ils étaient 12.
Ils étaient 12. On a eu la même chose en Yougoslavie, où la présidence des Serbes de Bosnie, c'était une présidence collective à 3, parmi lesquels il y avait une prof d'université qui n'a jamais tué personne, qui s'occupait juste de la logistique et de la propagande interne. Elle a quand même été condamnée pour crime contre l'humanité. Elle n'a échappé à l'accusation de génocide que parce qu'elle a plaidé coupable et qu'elle a de crime contre l'humanité, et que moyennant ça, elle a pu négocier les charges avec le procureur qui a retiré les charges contre génocide, moyennant quoi elle acceptait le crime contre l'humanité.
Eh bien, merci beaucoup, Jacques Villemain. Je rappelle le titre de votre ouvrage et je vais me faire gronder par l'éditeur parce que je ne l'ai pas mentionné. Ce sont les éditions du Cerf hein, qui ont publié Jacques Villemain, Vendée, 1793-1794. Le sous-titre est long, mais il est important. Crime de guerre, point d'interrogation. Crime contre l'humanité, point d'interrogation. Génocide, point d'interrogation. Une étude juridique, c'est ce qui fait la qualité de cet ouvrage, cette étude juridique. Peut-être un dernier mot, vous attendez à une réponse juridique et non pas une réponse historique à votre ouvrage ?
En tout cas, disons, la réponse historique, ça fait 30 ans que des historiens nient le fait du crime contre l'humanité, enfin pas tous, il y en a quand même quelques-uns qui admettent le crime contre l'humanité, mais tous, à l'exception de Reynald Secher et peut-être d'un ou deux autres, nient le crime de génocide. Je vous l'ai dit, je considère l'argumentation historienne juste ici comme nulle et non avenue, tout simplement parce que les historiens ne tiennent pas compte de la définition juridique du génocide. En revanche, bien sûr, un débat juridique, il y a un procureur, mais il y a un avocat de la défense. La blague des palais de justice, c'est de dire que si on pose une question à deux juristes, on obtient trois réponses. Donc, je m'attends bien, et ce serait tout à fait normal, à ce qu'il y ait d'autres interprétations et que ce soit contesté. Et je suis tout à fait disposé à rentrer dans la discussion, mais une discussion qui soit une discussion, j'allais dire, sérieuse. Simplement, génocide, c'est le nom d'un crime. Ce mot a été inventé pour définir un crime en vue des procès du tribunal de Nuremberg et des tribunaux de dénazification qui ont suivi. Donc la seule définition possible, et je récuse absolument toutes les définitions historiennes, la seule définition possible, c'est celle du droit.
Merci beaucoup Jacques Villemain. Cette émission n'aurait pas été possible sans l'assistance de Georges à la technique, toujours aussi fidèle. Un grand merci à lui et la collaboration de Jeanne de Saint-Hilaire. Merci à elle également. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce. Merci pour votre fidélité. Thank you.